Vous écoutez France Culture.
Affinité élective, une émission de Francesca Isidori. Si les titres de ces livres tiennent souvent, en apparence du moins, du paradoxe, éloge de la fadeur, un sage est sans idée, la grande image n'a pas de forme, formule qu'il emprunte à Lao Tzu, c'est sans doute pour montrer, d'entrée de jeu, comment la pensée chinoise opère et nous donne à réagir et à penser autrement. « Je n'ai écrit jusqu'ici qu'un livre, dit-il, dont les chapitres se multiplient. Chemin faisant, titre de l'un de ses derniers ouvrages, livre après livre, une vingtaine d'essais traduits dans une vingtaine de pays », ce philosophe et sinologue, professeur à l'Université de Paris 7, directeur de l'Institut de la pensée contemporaine, explore cet ailleurs de la pensée qu'est l'espace mental de la Chine à travers une série de thèmes qui vont de la stratégie militaire à l'art, de la définition de la sagesse à la rhétorique, de la conception de la morale à la théorie du pouvoir. Par le décentrement et un dépaysement de la pensée qui se garde de tout exotisme, sans postuler la d'altérité ni d'identité de principe, mais travaillant à construire un vis-à-vis et un dialogue entre pensées chinoises et européennes, par le détour et le retour, il remet en question et interroge la pensée occidentale pour trouver un autre point de départ qui permette de surprendre, relancer, réengager la philosophie. La Chine obscurcit, dit Pascal, mais il y a clarté à trouver, cherchez-la. On ne pourrait pas trouver meilleure définition de sa démarche, une clarté à chercher et à trouver, qui éclaire aussi d'un jour nouveau la philosophie et ses enjeux. Les affinités électives de François Julien. Bonsoir François Julien.
Bonsoir.
C'est par une pièce pour clavecin de François Couperin, interprétée ici par Pierre Antaille, que vous avez souhaité commencer cet entretien ce soir.
Oui, j'aime le clavecin et je trouve ça joyeux et plein d'entrain et invitant un peu au gai savoir nietzschéen, c'est-à-dire sans trop de lourdeur.
François Julien, est-ce que vous voulez bien regarder cette photo de vos 20 ans que je vous ai demandé d'apporter ?
Oui, c'est 20 ans, et c'est 20 ans quand j'étais en Chine, pour mon premier séjour d'étudiant. Et on me voit, eh bien, dans une rizière, avec à la main une bêche. Et j'apprends à faire une rizière, c'est-à-dire à rendre le sol absolument plan. Parce que sinon, l'eau va tout d'un côté et puis laisse le reste justement à sec. Et moi qui ai fait assez peu de travaux manuels en France, dans mon enfance ou dans ma jeunesse, j'ai connu en Chine ce qu'on appelait à l'époque Zai Tiaoyu. On traduit par rééducation, c'est pas ça, c'est éducation supplémentaire à la campagne ou à l'usine. Et c'est donc quand on est étudiant en Chine qu'on est amené on était amené à l'époque, bien sûr, c'est révolu. Mais disons, à l'époque, était la fin de la révolution culturelle.
Mmh, l'extrême fin. Exactement, c'était en 75.
75. Mmh. L'extrême fin de la révolution culturelle. Et donc, l'administration de l'université organisait ces séjours comme ça d'apprentissage auprès des masses, comme on dit à l'époque. Vous voyez, on est très loin de l'époque actuelle. Hein. Mmh. Apprentissage auprès des masses. Et ce qui n'était pas sans intérêt, en tout cas pour nous, étrangers, puisqu'on avait enfin un rapport un peu effectif avec la société chinoise, que sinon on fréquentait fort peu, compte tenu de la distance imposée entre occidentaux et chinois dans le régime de l'époque.
Est-ce que le maoïsme, qui était très en vogue à l'époque où vous avez fait votre premier voyage en Chine, est-ce que le maoïsme a joué un rôle dans ce détour que vous allez faire, que vous avez fait pour la Chine, vers la Chine ?
Certains l'ont cru, mais ce n'est pas le cas. Pour une question d'ailleurs de génération, même d'années, à quelques années près, je veux dire qu'il y a eu un engouement maoïste en France jusqu'aux années 70. Moi, je viens un peu plus tard. Et donc, mon intérêt pour la Chine est venu de mon intérêt pour la philosophie et pour trouver une stratégie différente dans la façon d'engager la réflexion. J'avais l'intérêt, bien sûr, pour la réalité chinoise contemporaine, mais ce n'est pas par intérêt ou, disons, engagement maoïste proprement dit, car je dois dire que l'affaire chinoise, socialiste chinoise, était déjà trop avancée ou trop abîmée pour qu'on puisse encore y croire, sauf avec une naïveté énorme à l'époque.
Mmh. Alors, on fait un pas en arrière et puis on reviendra à ce premier séjour en Chine. Vous êtes né à Embrun ?
Embrun, oui.
Dans la montagne ?
Dans les montagnes, mais ça, c'était à cause des vacances. Donc, ce n'est pas très significatif. Néanmoins, je garde, puisque nous sommes revenus plusieurs fois, et ma famille était liée néanmoins avec ce paysage embruné, oui, une nostalgie parce que j'y retourne quasiment pas. Et j'ai même été, dans ma jeunesse ensuite, j'ai un peu fui la montagne parce que j'en avais trop fait. Puis, vous savez, les années venant, eh bien, on a une sorte de retour comme ça, nostalgique, oui, physique aussi. Retrouver un peu d'altitude, retrouver un peu ces paysages qui sont fort beaux de l'Embrunet.
Vous avez grandi ?
Oh, j'ai grandi pour une partie au Maroc d'abord, puis à Nancy, la Lorraine ensuite, et puis à Grenoble enfin, avant de, comme on disait dans les romans du 19e siècle, monter à Paris.
Et quels souvenirs vous gardez des premières années au Maroc ?
Du Maroc, c'était le Maroc d'avant la décolonisation. Dernières années, donc, c'est des années plutôt tendues. J'étais évidemment tout petit, mais disons, néanmoins, quelque chose me reste d'une vie qui était quand même un peu suspendue, compte tenu du climat et puis d'insécurité qui était celle de l'époque. Et puis, ce tournant assez brusque, Nancy, n'est-ce pas ? Mes parents étaient professeurs et ils ont été ensuite donc, nommés à Nancy. Et Nancy, bon, c'est la Lorraine, c'est l'hiver, c'est le froid, enfin bon, bref. Pas seulement ça, d'ailleurs, bien sûr, c'est tout autre chose aussi. Mais disons, nous n'avions aucune attache avec la Lorraine, avec l'Est de la France en général. Et donc, ça a été d'abord une découverte un peu étrange et puis finalement, un attachement. Je dois le dire, un attachement. Mes parents eux-mêmes s'y sont attachés. Enfin bon, mais ils souhaitaient ensuite revenir à Grenoble parce que nous sommes ma famille des Alpes, des deux côtés d'ailleurs, Savoie ou Dauphiné. Et voilà, mes parents voulaient retrouver les montagnes. Je les ai retrouvés avec eux, un peu contraints parce qu'à l'époque, les montagnes, je vous dis, j'en avais un peu trop vu. Puisque même quand on était à Nancy, on retournait toujours dans les Vosges. Enfin, il fallait quand même monter, n'est-ce pas ? Et puis bon, maintenant, j'y suis à nouveau un peu sensible.
François Julien, vous montez à Paris, donc, École normale supérieure.
Préparatoire d'abord, oui, c'est oui. Ça. C'est l'itinéraire classique, hein, oui. Là-dessus, banal.
Philosophie. Et puis des études de grec.
Oui, grec, c'est ça.
Vous avez été l'élève de Jean-Pierre Vernant, de Jean Bollac. Quel souvenir vous gardez de, de l'enseignement de ces deux grandes personnalités, enfin, qui ont profondément modifié l'approche des études de l'Antiquité grecque.
Tout à fait, tout à fait. C'était en fait en entrant à l'école normale supérieure, j'étais helléniste, effectivement. Et j'ai toujours le même intérêt pour la culture et la pensée grecque. Et c'est vrai que parmi les personnalités marquantes de ces années-là, après 70, si vous voulez, les hellénistes, notamment eux deux, n'est-ce pas, étaient importants. Parce qu'il y avait un décapage, j'aime pas trop le mot, mais disons, une façon de remettre à jour ce qu'étaient ces humanités souvent un peu ennuyeuses ou, disons, poussiéreuses. Mon rapport aux deux était un peu différent parce que les deux personnes étaient très, très différentes. Enfin, je veux dire, Vernant était très accueillant. Et quand j'ai eu cette idée, très peu de temps après mon arrivée à l'école normale, de ce pas de côté, du côté de la Chine, j'ai consulté Vernant et qui m'a dit cette réponse que je trouve belle par sa générosité. Écoutez, moi, j'en sais rien. Vous avez 20 ans, pourquoi pas? Si vous cassez le nez, ben, vous verrez bien. Donc, c'était accueillant. Bon, de Jean Bollack, on ne peut pas attendre le même accueil, parce que cette sorte d'intransigeance, c'était moi ou rien. Enfin, c'était cette sorte d'engagement dans la philologie, comme une sorte d'engagement, comme on dit, entrer dans les ordres, n'est-ce pas? Alors, voilà, c'est effectivement, en tout cas, de ce côté-là que je me suis engagé dans la pensée. Les séminaires de Bollack sur les catharmes d'Empédocle et le travail de Vernant, qui était à l'époque celui portant sur la tragédie et, disons, plus généralement, le rapport de la cité grecque à ses mythes.
Alors, quels ont été, à un moment donné, vos choix, vos paris qui vous ont conduit à faire ce pas de côté, qui vous ont conduit de la Grèce à la Chine?
Je l'ai dit, ce n'est pas un choix politique, même si la réalité contemporaine de la Chine m'intéresse.
Mmh. Stratégique.
Donc, un choix stratégique. Oui, stratégique, parce que pas vraiment de méthode, de stratégie. C'est-à-dire, au fond, j'ai eu le sentiment, d'une part, que la Grèce m'était peut-être trop familière dans l'héritage qu'on en a et qu'il est difficile d'identifier, pour pouvoir la connaître aisément. Donc, vous voyez, rompre le familier pour essayer d'élaborer des conditions de connaissance. Et d'autre part, le souhait de prendre la philosophie, à revers, n'est-ce pas? Comme on parle de stratégie, n'est-ce pas? D'attaque à revers. C'est-à-dire, au fond, de couper avec une... j'ai à peine évidence, mais disons une sorte de, là encore, de familiarité du questionnement philosophique pour voir si on pouvait prendre les choses autrement. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment prend-on les choses, question de prise. Et pourquoi la Chine? Pour des raisons qui étaient donc, alors là, toutes simples à dire. Il me fallait trouver un lieu d'extériorité par rapport à la pensée grecque. Et extériorité signifiant à la fois extériorité de la langue, sortir de l'indo-européen, donc pas le sanskrit. Or, à l'école normale, à l'époque notamment, beaucoup de camarades prolongeaient le grec par le sanskrit. Effectivement, il y a cette ramification commune. Hein. Mais voulant justement non pas approfondir la parenté du grec, mais trouver un point d'extériorité par rapport à elle, il me fallait donc sortir de la grande langue indo-européenne. Donc, ce qui exclut le sanskrit. Et je souhaitais aussi sortir des rapports d'histoire, ce qui exclut pour moi aussi bien le monde arabe que le monde hébreu, qui sont liés à notre histoire occidentale, qui font même partie de l'Occident. En même temps que, ne voulant pas devenir anthropologue, mais étant philologue autant que philosophe et travaillant sur les textes, il me fallait trouver un monde de pensée aussi, disons, textualisé, commenté, explicité, que le nôtre en Europe. Je dirais que si vous relevez ces trois conditions, d'extériorité d'une part, et disons, de comparabilité de l'autre, il n'y a que la Chine.
Mmh. Alors, première objection que pourraient soulever certains philosophes, Hegel en tête, qui déclarait « il y a des philosophes en Chine, mais il n'y a pas de philosophie
». Oui, alors Hegel, évidemment...
Alors, est-ce que justement, encore aujourd'hui, on dit que la philosophie chinoise n'est pas une philosophie, mais que c'est une sagesse, que c'est une pré-philosophie, que c'est une enfance de la philosophie.
Tout à fait.
Alors,
tout
comment vous...
Oui, il y a quelque chose dont il est difficile de sortir, parce qu'Hegel, justement, l'a fortement installé,
qui est qu'il y a une histoire de la philosophie qui est en fait l'histoire de la philosophie occidentale, et que les autres traditions de pensée sont restées dans l'enfance de la philosophie. Formule de Merleau-Ponty d'ailleurs, hein. Ou ce que Deleuze lui-même, si grand que qu'ils soient tous, n'est-ce pas, les uns les autres, c'est pas de ma part une sorte de dénigrement, c'est simplement que, bon, il faut, notre époque a changé aussi, et donc on voit les choses autrement, et puis on en sait plus aussi sur les autres traditions de pensée. Et si on n'en sait pas encore assez, c'est notre faute à nous, les sinologues, ou les, disons, orientalistes en général. Je vois qu'il y a cette idée, celle de, encore de, qu'on trouve chez Deleuze, d'une pré-philosophie. C'est-à-dire qu'au fond, l'axe principal de la philosophie, de son développement nécessaire, serait celui de l'Occident, par rapport à quoi les autres traditions sont, oui, dans l'enfance, sont dans la pré, bon, bref, dans la pré-philosophie, bref, comme des stades préparatoires, mais disons, qui ne peuvent se penser vraiment que par rapport à l'axe qu'a constitué.
Un modèle.
Oui, c'est ça, une trajectoire, oui, comme ça, centrale, qui est celle de la philosophie. Là, sortir de ça n'est pas très simple, parce que ça implique de reconsidérer non seulement les autres traditions de pensée, mais également la tradition philosophique elle-même, telle qu'elle est en Europe. Et c'est un peu ce travail que je me suis livré.
Puisque vous parlez souvent en termes de détour, donc ce passage par la Chine, mais aussi de retour, c'est-à-dire de retour à la philosophie occidentale, pour nous regarder au fond du dehors.
Oui, alors je me suis rendu compte qu'on s'est parfois mépris sur ce que je voulais dire. Alors, je préfère le préciser comme ça d'emblée.
Voilà, pour, c'est l'occasion.
Merci, c'est gentil de me proposer comme cela. Détour, oui, parce qu'il ne s'agissait pas pour moi d'une fascination pour la Chine, d'une séduction exotique, c'est ça, c'est-à-dire... Et je ne trouve pas d'une fuite à l'égard de la pensée européenne, puisque je vous dis mon attachement encore aussi vif aujourd'hui, à l'égard de la pensée grecque et de la pensée philosophique européenne en général, allemande, grecque, etc. Et donc, il s'agissait de quelque chose de stratégique, c'est-à-dire, au fond, d'une opération qui consistait à passer par une extériorité, ce que Foucault appelle l'hétérotopie de la Chine, le lieu est ailleurs, n'est-ce pas, de façon à éprouver ce que pouvait être un dépaysement de la pensée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui arrive à la pensée quand vous coupez avec les grands philosophèmes de la philosophie, et plus encore, quand vous coupez avec l'histoire qui les a portés, et même quand vous coupez avec la langue qui les a articulés. Donc, quand vous coupez ça, c'est-à-dire, vous savez bien que souvent, et quand on pense, mais en se réadossant à de l'histoire, et c'est légitime d'ailleurs, là, quand vous coupez avec ça, quand vous faites table rase, en quelque sorte, grand fantasme de la philosophie, faisons table rase, n'est-ce pas, et que vous vous transportez ailleurs, dans un ailleurs qui n'a pas de relation, disons, d'influence avec cet ici. C'est ça qui me paraît important en Chine. C'est jusqu'au XVIe siècle, fin XVIe siècle, voire jusqu'au XVIIIe, XIXe siècle, la Chine et l'Europe ne communiquent pas.
Plus encore que de différence entre la Chine et l'Europe, vous parlez d'indifférence.
Oui, d'indifférence, c'est-à-dire au fond...
De méconnaissance.
Oui, c'est-à-dire qu'on a deux traditions de pensée qui se sont développées l'une et l'autre sans se regarder, sans se parler. Et la difficulté que j'ai... Moi d'abord, en tant que sinologue philosophe, c'est d'organiser des vis-à-vis de sorte que ces pensées qui se sont développées indépendamment l'une de l'autre commencent bien à se mettre en vis-à-vis, c'est-à-dire à se regarder, à se parler, bref, commencent à engager un dialogue. Alors le détour c'était ça. Et bien sûr, si je dis détour, c'est que j'entends retour mais qui n'est pas rentré chez soi, hein, qui n'est même pas après. Dans un premier temps, le détour, et puis quand on est assez... on a assez d'expérience, on rentre
rassasié
chez soi. Rassasié
d'expérience.
Voilà, dans ses pantoufles. Non, c'est pas ça. Le retour est contemporain du détour. Il s'agit à la fois d'aller en Chine, mais de ne pas s'y installer. Et je le dis parce qu'il y a une tentation continue pour un sinologue qui est de se siniser. Parce que la puissance de la culture chinoise est telle qu'effectivement, vous êtes tenté par l'assimilation, parce qu'il faut faire tellement d'efforts, de travail de mémoire, d'apprentissage de textes, de lecture de commentaires, etc., qu'il y a quelque part une tentation de poser sa tente quelque part et de camper sur un texte ou dans un auteur. Et puis, comme c'est très vaste et qu'on n'a jamais tout le savoir qu'il faut, eh bien, de s'y installer. Or, retour signifie que je ne voulais pas m'installer quelque part, que je reste nomade et que je reviens sur la philosophie pour l'interroger à partir de ce dehors chinois, sur ce qu'elle n'interroge pas. C'est-à-dire, au fond, faire reparaître les partis pris implicites, les choix enfouis qui constituent pour nous l'évidence de la pensée et qui, revus de ce dehors chinois, eh bien, redeviennent saillants, donc intéressants, et donnent à nouveau à penser.
Alors, pour faire ce détour, il vous a fallu évidemment devenir sinologue, sans vous enfermer dans cette spécialisation, donc sinologue un peu à votre façon, et apprentissage de la langue, évidemment. Et la première leçon de chinois, je crois savoir, portait sur une traduction de cette phrase. Quelle est cette chose ? Or, chose, en chinois, vous avez découvert à ce moment-là, se dit est-ouest. Donc, là où nous avons ce mot chose qui, je sais pas, qui fait allusion à une essence, c'est est-ouest, c'est-à-dire une relation, un espace.
Tout à fait.
Vous avez été déconcerté, mais c'est ce que vous cherchiez ?
Oui, déconcerté, surtout intéressé, parce que, vous savez, jeune helléniste, on savait beaucoup moins de choses sur la Chine à l'époque que maintenant. En plus, c'était la Chine, l'extrême fin du maoïsme, dont on savait vraiment très peu de choses. Et l'idée de ce pas de côté, donc de ces stratégies pour prendre à revers la raison européenne, bon, il faut mettre ça en acte. Donc, il faut effectivement aller sur des bancs pour apprendre à balbutier du chinois, alors que j'avais déjà fait mes gammes, si vous voulez, du côté européen. Et effectivement, première leçon de chinois, je le raconte, parce que ça fait partie de ces révélations, quand on a révélations théoriques, bien sûr. Mais, et d'autant plus grande que souvent, vous voyez autour de vous les gens qui ne voient pas ça, ou ne s'y intéressent pas. Et vous dites, au contraire, ben non, mais si, effectivement, premier mot que j'apprends, quasiment le premier, n'est-ce pas, le plus commun, le plus commode, chose, mot de base, hein, que, s'il en est. Si je dis non pas ce qu'effectivement sous-entend chose, causa, et puis le rapport à res, bref, l'affaire, mais aussi la substance, un terme unitaire en tout cas. Si je dis cette chose quand même relativement étrange, effectivement, est-ouest, c'est-à-dire une relation entre opposés, donc une tension, une polarité en fait, n'est-ce pas ? Ça dérange beaucoup de choses, si je peux dire, n'est-ce pas ? Ça dérange un questionnement qui, pour nous, c'est ça qui est important. Ça dérange quelque chose que je n'aurais peut-être pas dérangé si je n'avais pas pratiqué ce détour, cette extraversion, bref, cette hétérotopie-là. Et au fond, c'est ça qui m'intéresse en Chine, c'est que cela m'amène à me poser des questions que sinon, sans doute, je ne me serais pas posé. Car plus important que ce qu'on pense, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on pense à penser. C'est-à-dire, au fond, ces choix implicites qui nous portent à privilégier certaines options d'interrogation, n'est-ce pas, certaines lignes de réflexion plutôt que d'autres. Or, nous pensons toujours à partir non seulement de présupposés, mais d'un impensé qui est ce à partir de quoi on pense. Et au fond, pour moi, c'était une façon de revenir sur l'impensé de notre pensée.
Je ne pourrais dire de cette musique qu'on écoute que le nom de l'instrument, Qin. Je vous laisse le soin de nous expliquer, de nous dire ce qu'est cet instrument.
C'est l'instrument du lettré, n'est-ce pas ? Et donc, il fait entendre, vous voyez, les instruments à cordes, une sorte de caisse, comme ça, de résonance, avec des cordes dessus. Et là, évidemment, c'est de faire entendre les sons,
les laisser se détacher. Et cela a conduit, j'ai fait allusion dans les petits essais sur la fadeur, à justement ce qu'on appelait la musique fade, c'est-à-dire d'abord la musique silencieuse, ce beau thème chinois, la musique silencieuse, c'est-à-dire une musique qui est là pour faire entendre le silence, l'harmonie foncière des choses, qui donc ne se perçoit pas, mais nous entoure. Et ces sons qui font entendre le silence, l'harmonie est silencieuse, c'est ça qui est en jeu. Et il y avait même dans un grand poète chinois, Tao Yanming, dont on raconte qu'il avait comme cela ce type de luth, n'est-ce pas, mais sans cordes, pour justement ne pas avoir à dissocier les sons les uns des autres et garder entière cette harmonie silencieuse.
Potentielle.
Potentielle, oui, ce qu'on possible. Si vous voulez, le fait que dès lors que vous pincez une corde, c'est celle-ci et pas l'autre, c'est telle note et pas l'autre. Et donc vous entrez dans une logique de disjonction où faisant émerger du réel, vous, en même temps, eh bien, vous laissez dans l'ombre toutes les autres possibilités. Donc vous êtes dans le choix et même l'exclusion, la disjonction. De même que si vous, rendez une saveur prononcée, eh bien, vous faites disparaître la possibilité des autres. Donc il y a une réflexion chinoise ancienne et développée et qui traverse la musique, mais d'abord la cuisine, mais aussi la poésie, mais aussi la peinture, qui est justement de rester au seuil du sensible pour faire entendre l'harmonie imperceptible. Et le Qin a été l'instrument lettré portant cette possibilité-là.
François Julien, revenons un instant à vos premiers voyages en Chine, donc au milieu des années 70, Pékin, Shanghai, Hong Kong, trois visages différents de la Chine. Qu'avez-vous découvert, appris, compris lors de ces premiers séjours en Chine ?
Ce n'était pas des séjours faciles, en tout cas pour les deux premiers, à Pékin et Shanghai, parce que c'était l'extrême fin. C'était avant et après la mort de Mao. Donc, mort de Mao, c'est septembre 76. Et dans une Chine qui était quand même très glacée, c'est pas glacée idéologiquement, et où on voyait peu de choses, en tout cas, on nous cachait beaucoup de choses, n'est-ce pas ? En même temps, il y a l'apprentissage du chinois, un apprentissage qui n'était pas vraiment favorisé par le contexte, puisque la communication avec la population chinoise n'était pas ce qu'on favorisait, sauf ces séjours à la campagne qu'on évoquait en commençant. Et puis l'apprentissage du chinois, qui est une langue qui n'est pas une langue plus difficile qu'une autre, simplement dont la littérature, enfin dans le texte plus exactement, le texte classique, est très long à pénétrer et dont la familiarisation est une chose qui exige infiniment de patience si on n'a jamais fini d'apprendre à lire les textes chinois. Donc je crois qu'il y a là une exigence qui est une exigence d'abord liée à la langue et une découverte, alors découverte oui, bah, découverte de ce qu'est l'idéologie, si vous voulez, découverte de ce qu'est la révolution, quand la révolution se fige, tout ce qui est la déception et ce qui a été après ce qui est le refoulement aussi. Et puis ce qui a été après la mort de Mao, eh bien, le tournant idéologique qu'on connaît, et donc ce qui a conduit la Chine à changer complètement de cap, de passer d'une économie socialiste à la boulimie capitaliste d'aujourd'hui, même si le nom même de socialisme n'est pas retiré pour des questions qu'on imagine bien, pour des raisons qu'on imagine, n'est-ce pas, de commodité, hein. Mais de lire ce qu'est de jour en jour, au fil des jours, dans l'ennui des journées répétées, de lire ce qu'est une mutation idéologique. Ce qui est d'autant plus important dans le cas de la Chine, qu'elle n'était pas annoncée. Le pouvoir, bien que changeant de politique, ne l'affichait pas, pour ne pas introduire de rupture, et donc de prétexte, ou de cause, de raison à révolution pour le peuple, si vous voulez. Donc, il y a cette sorte d'apprendre à lire entre les lignes, apprendre à lire les indices, apprendre à lire ce qui est à peine, n'est-ce pas, suggéré, mais où tout le sens, néanmoins, est concentré. Donc, ces modifications graduelles, ces infléchissements, bref, cette lecture du subtil, n'est-ce pas, que la Chine nous apprend. De l'allusif, c'est cela, et qu'on ne peut, faire vraiment que quand on a mémoriser du texte, qu'on voit ces modifications progressives. Ça, en tout cas, pour Pékin et Shanghai, qui, à cette époque, étaient quand même très semblables. Et puis, c'était le Shanghai de la bande des quatre. Donc, un Shanghai quand même sous pression, après la chute de Mao, en tout cas sous contrôle, et
que j'ai connue à l'université Fudan. Hong Kong s'est apporté un peu plus tard, dans les années 80, et puis dans un contexte qui était celui d'une colonie quand même anglaise, donc bien sûr dépendante de Pékin déjà, mais ayant sa marge quand même d'initiative et même de compensation par rapport au grand continent que Hong Kong jouxte ainsi. Et là, j'ai eu deux expériences importantes. D'une part, auprès de ce qu'on appelait les nageurs, ceux qui avaient fui la Chine à la nage, ou les watchers, ceux qui la surveillaient à travers les médias tels qu'ils parvenaient à Hong Kong. Et puis d'autre part, ces derniers grands lettrés chinois qui avaient fui la Chine en 1949 et qui s'étaient retirés à Hong Kong ne voulant pas passer aux États-Unis, enfin bref, vouloir rester en terre chinoise, notamment Xu Fuguan, Mo Zhongshan. Je cite ces noms parce que ce sont maintenant des gens qu'on révère beaucoup en Chine, mais qui à l'époque enseignaient devant personne, n'est-ce pas? C'était quand je suivais les cours de Mo Zhongshan, Xu Fuguan, il y avait 3-4 personnes dans la salle.
Et néanmoins, il pouvait enseigner.
À Hong Kong, c'était libre. Donc, ils étaient retirés, c'était dans un lycée. Alors maintenant, on a publié leurs offres complètes, ils sont honorés comme les nouveaux confucéens, mais à l'époque, ils étaient extrêmement seuls, et j'étais le seul étranger d'ailleurs à suivre leurs cours. Ils incarnaient, alors c'est pas, je les évoque parce que une fidélité à la culture chinoise à travers ces tensions, révolutions et tout ce qui a fait comme la violence de l'histoire chinoise, et un effort aussi d'intelligence extrême pour entrer en contact avec la culture occidentale. Mo Zhongshan a été le premier à traduire Kant en chinois à partir de l'anglais, n'est-ce pas ? Xu Fuguan avait aussi un intérêt très, très vif pour la culture européenne. Donc cet effort d'intelligence qui était quand même très, très solitaire en même temps, m'a paru quelque chose des figures d'intellectuels qui étaient remarquables, d'autant plus qu'ils étaient dans le désert. Et cette force de résistance dans la solitude, en restant attaché à un engagement et disons en continuant à développer un travail intellectuel, me paraît remarquable.
François-Julien, il y a un livre qui vient de paraître aux éditions du Seuil, La pensée chinoise dans le miroir de la philosophie. C'est un recueil d'essais qui recoupe un travail d'une décennie, 1986-1996, et ses différentes incursions dans la pensée chinoise qui réunit, dessine un périple, un itinéraire qui est le vôtre. Alors, j'aimerais qu'on reprenne quelques-uns de ces essais, parce que c'est par le détail, très souvent, qu'on arrive à mieux comprendre la structure, la façon d'opérer et d'une pensée. Alors, il y a par exemple le nu impossible. C'est le titre de l'essai, c'est un essai de 2000, « De l'essence ou du nu ». Dans l'art chinois, il n'y a pas de nu. Là où dans l'art occidental le nu est omniprésent, dans l'art chinois il est, on pourrait dire, omni-absent. C'est ce que vous dites d'ailleurs.
Oui, là je constate. Mais il s'agit effectivement, vous citez là la republication d'une partie de mon travail, de la collection Opus au Seuil, le second volume devant venir l'an prochain. Et donc je commence à publier mes œuvres posthumes. Vous voyez, je m'y mets déjà. Là je reprends le travail de 10 ans. Depuis Procès ou création, qui est mon premier essai. Et effectivement, j'ai souhaité recouper mon travail parce que je vous l'avais dit en commençant très justement, il s'agit de chapitres d'un même livre. Alors autant faire ce livre et le relier tous ces chapitres en un même volume, ou deux, mais enfin disons. Parce que je crois que ces titres peuvent paraître très divers, titres de mes essais successifs, mais au fond, il s'agit, par un point ou par un autre, par un biais ou par un autre, de mettre en œuvre cette stratégie de vis-à-vis de la pensée chinoise et de la pensée européenne, de façon à donner forme à des questions. Parce que la philosophie, moi, je l'aborde par des questions qui sont constituées progressivement à la rencontre de ces champs qui s'ignoraient, on l'a dit, par indifférence, mais qu'il me paraît opportun, historiquement, mais aussi fécond philosophiquement, de faire qu'elles se rencontrent dans la pensée. Alors, L'affaire du nu, si j'ose dire, c'est parce que... D'abord, le nu, c'est pas le dénudé. Ça, il faut que les gens le comprennent bien, parce que souvent, l'objection me vient comme ça. Il s'agit... Le nu, au fond, c'est le contraire, n'est-ce pas ? C'est cette, disons, possibilité dans l'art d'instaurer quasiment à mi-distance du désir de la chair, d'une part, et puis de la pudeur de la nudité de l'autre, un plan qui soit quasiment en mesure de les neutraliser, et l'un et l'autre, justement le plan du beau. Alors, effectivement, du nu dans l'art, on en trouve un peu partout, avant la Grèce, bien sûr, et même ailleurs qu'en Grèce, dans l'Antiquité, mais la Grèce, effectivement, est le lieu où le rapport du beau et du nu, quand même, se travaille de plus près. Et puis, on est dans la tradition de cela. Là, vraiment, il y a un trait, je dirais, européen, puisque à Rome, mais aussi... cette décision de concile, n'est-ce pas, de figurer le Christ nu. C'est-à-dire, nu, c'est pas qu'on voit le sexe, n'est-ce pas. Le nu, c'est qu'il y a la forme du corps, c'est-à-dire l'anatomie, la modélisation, bref, que la consistance soit celle du corps, du corps comme forme. Et puis, bon, Dürer a dû s'y mettre. Enfin, je veux dire, même ceux de tradition nordique, n'est-ce pas, qui n'étaient pas dans le bain, comme ça, de la Renaissance, ont dû y passer. Et je dirais, de la sculpture à la peinture, de la peinture à la photographie, bref, on n'en sort pas, et encore aujourd'hui, aux écoles des Beaux-Arts, on fait ça. Académie signifiait aussi études de nu. Donc il y a là, je crois, un trait européen. Et qu'on rend d'autant plus saillant, qu'on voit d'autant plus surgir, si on le met en rapport avec, effectivement, ce qu'on constate, c'est pas moi qui le fais, c'est tout le monde, n'est-ce pas ? Il suffit d'aller en Chine pour voir que, ni dans les musées, ni sur l'espace public, ni dans les temples, il n'y a de nu, n'est-ce pas ? Ce qui fait donc reparaître le nu dans l'art, non pas comme une sorte d'évidence, de banalité, mais comme étant au fond du choix, de l'invention, l'ouverture d'un certain possible, qui n'est pas une sorte d'évidence de l'art, mais quelque chose qui s'est progressivement constitué. Parce que du côté chinois, donc cette absence du nu du côté chinois, dans l'art chinois, à la fois éclaire les conditions de possibilité de l'invention du nu d'une tradition artistique et à une autre, et en même temps nous interroge sur les conditions, je dirais, d'impossibilité du nu dans l'art chinois, puisqu'il y a bien figuration de personnages, néanmoins, dans la tradition chinoise. Mais pourquoi nous avons privilégié le nu? Alors je pense que les raisons... On me dit souvent, mais question de pudeur. Non, la pudeur est partout. C'est la réponse trop facile qu'on m'a faite souvent. Je crois qu'il y a quelque chose qui est justement que le nu, ce n'est pas le dénudé. C'est, disons, cette opération qui conduit à essayer de mettre en œuvre la forme du beau. Donc, à travers la forme, qui est celle du corps, qu'on ne cesse de modéliser. Ce n'est pas du tout empirique, le nu, n'est-ce pas ? C'est avec le rapporteur, c'est avec le compas, les questions de dépassement à différentes parties du corps, de proportions, etc. C'est comme la beauté canon, n'est-ce pas ? Avec aussi, ce qui est important dans la tradition européenne, un corps donc, qui est anatomique, ce que n'est pas le corps énergétique en Chine, pris dans des conditions physiques, de support, sustentation, équilibre, etc. Et puis, avec aussi cet effet d'abstraction, puisque seul l'homme est nu. Et en même temps, quand vous figurez le nu, c'est que vous faites cette abstraction de ce qui est l'époque, de ce qui est la condition sociale. Bref, vous posez la question grecque par excellence, qu'est-ce que l'homme ? Une question d'essence, de l'essence ou du nu, c'est ça. C'est que le nu, au fond, c'est qu'on a retiré tout ce qui était, comme dirait Descartes, qualité seconde, n'est-ce pas ? Pour ne retenir, pour n'interroger que ce qu'est l'essence de l'homme, qu'est-ce que c'est, ben le nu, disons, et ce chemin pour commencer d'y répondre. Et on voit bien comment, alors, du côté chinois, ce corps qui n'est pas anatomique mais énergétique, le corps en Chine, c'est quoi? C'est un sac avec un sac d'énergie, avec des trous d'entrée, de sortie, si vous voulez, c'est une sorte de circulation énergétique. Hein. On voit bien que les planches d'acupuncture en Chine n'ont rien à voir avec les planches d'anatomie européenne, puisque la forme du corps est très grossière, par contre la circulation énergétique, la pulsation rythmique, elle est très finement dessinée, de l'orteil jusqu'au bout du crâne. Et puis le fait que la Chine a cherché à peindre beaucoup plus que la forme, la transformation, c'est-à-dire le processif, c'est-à-dire la transition, c'est-à-dire, et dans la figuration même des personnages, ce qui est en transition entre le visible et l'invisible, par exemple la prunelle, n'est-ce pas, par exemple, tout ce qui est les ridules au coin des yeux ou au bord des lèvres, tout ce qui fait apparaître à titre d'indice, comme on l'a déjà dit, l'invisible dans cet à peine visible qui est figuré.
Vous dites que les peintres chinois peignent les choses entre il y a et il n'y a pas. Je présente. Absente.
Oui, et c'est pas moi qui le dis. Là, je ne fais que traduire le chinois.
La transition, le passage.
C'est ça. C'est-à-dire, bon, il faut évidemment éviter de schématiser, mais il y a, je crois, certains écarts qui sont massifs, dont celui-là. C'est qu'au lieu de chercher à représenter quelque chose qui serait de l'ordre de l'essence, il s'agit de d'évoquer ou de laisser passer ce qui est effectivement la dimension processive de la réalité, ce qui est le réel pour les Chinois, à savoir cette transformation continue entre il y a et il n'y a pas, d'où l'intérêt de la peinture chinoise pour les paysages de transition, pour le soir, pour le retour du beau temps ou l'inclinaison vers la pluie, bref, tout ce qui fait transition, qui au lieu de fixer des essences, eh bien, fasse apparaître que le monde est une transformation continue, une transformation silencieuse, bref, un procès qui n'en finit pas.
Gabriel Fauré, nocturne numéro 1, opus 33, Kunu Wu Peik au piano. Je voudrais citer une phrase de Jankélévitch. La musique de Fauré est la constante opération de cette insaisissable ubiquité qui est nousquamité. Alors, c'est un néologisme créé par Jankélévitch qui signifie nulle part. Elle est le mode d'exister de ce que nous appelons l'omniprésence omniabsente. C'est du charme. Le texte de Jankélévitch, dans le chapitre consacré à la musique de Fauré. Et dans cette omniprésence omniabsente, il y a comme des échos de ce que vous venez de dire par rapport à
oui, ça peut faire transition.
Au travail du peintre. Et aussi, dans mon esprit, c'était une transition pour parler de quelque chose que vous avez étudié, qui est la fadeur. Dans votre livre « Éloge de la fadeur ». Alors, je disais au début de cette émission que souvent, vous aimez choisir des titres qui sont des surprises. Enfin, « Éloge de la fadeur », qui penserait faire l'éloge de la fadeur ? Mais c'est un point sur lequel tous les courants de la pensée chinoise s'accordent. La fadeur est une valeur.
Oui, et d'ailleurs, on le voit encore mieux paraître par rapport à ce qu'on a dit du nu. Je dirais que le nu n'est jamais fade, n'est-ce pas, dans la peinture européenne. Le nu ne peut pas être fade, je crois, parce que le nu, justement, dans la peinture, dans la photographie encore, on voit bien qu'il fait effraction, il introduit une rupture. Alors que le fade, vous dites, titre surprenant, oui, peut-être pour nous, mais en même temps, c'est une évidence chinoise qu'on trouve dans la cuisine, qu'on trouve dans la façon de caractériser les personnages, un personnage fade, à propos du sage lui-même, à propos du Tao. Le Tao, quand il passe par la bouche, dit le Lao Tzu, plat, fade, sans saveur. C'est pas, donc c'est explicite comme refus de tout ce qui serait saveur appuyée, avec l'idée qu'une saveur appuyée, attirante peut-être, provocante,
et bien en même temps s'épuise vite et décevante. Alors que rester au seuil...
Et puis elle efface toutes les autres.
C'est cela. Elle efface, donc elle est exclusive. Et en même temps, elle s'épuise parce que justement, prononcer, donc, sans potentiel encore, n'est-ce pas ? Alors que si vous restez au seuil du sensible, dans la peine sensible, eh bien, vous gardez tout le compossible d'une part, donc sans l'exclusion, et en même temps, vous avez toujours du, ce qu'on appelle en chinois, de l'au-delà des mots, de l'au-delà du paysage, de l'au-delà du son, son au-delà du son, donc de l'au-delà qui garde dans une sorte de potentialité, donc de fécondité, d'inépuisable, ce qui est évoqué. Donc il y a là un choix qui est un... sorte d'évidence, évidemment, pour nous, le terme est négatif. Ce qui m'intéressait, c'était de voir comment en Chine il était positif, et comme, mais le suivre aussi dans l'histoire. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est d'abord dans le rituel, c'est dans la caractérisation du sage, du Tao aussi. Et puis comment ça passe dans ce qu'on appelle, nous, la psychologie. Caractériser les personnes, pour les classer, pour les aussi les hiérarchiser. Et puis dans un monde de fonctionnaires, c'est important. Et comment cela passe ensuite dans l'art, ou dans le jugement sur l'art, dans la pratique de ce qu'on appelle la calligraphie, l'écriture chinoise, la peinture et même la poésie, ce qui est plus tard en poésie. Parce qu'en poésie, on voit bien qu'il y a un changement de signe, que le terme d'abord est négatif, mais comment il devient positif.
Mais alors, à quoi peut ressembler un son fade, un poème fade, un poème fade ?
Un poème fade, justement, c'est un poème où rien n'est appuyé, c'est-à-dire où à peine le sens est évoqué, qu'il est transformé. Il n'y a rien d'insistant. Il n'y a rien qui fasse thème, n'est-ce pas ? Encore moins qui dramatise. Alors, ce n'est pas seulement la litote. Ce n'est pas seulement une économie du moins pour le plus. Il s'agit simplement de maintenir dans une transformation continue qui fasse que rien ne soit appuyé, ne soit thématisé et donc que tout soit évoqué. C'est cette, disons, ce n'est pas seulement une question de retenue, donc ce qui renvoierait chez nous à un concept rhétorique d'économie du sens, mais plutôt... dans cette idée que c'est à l'état, disons, virtuel que le réel a le plus d'intensité.
François-Julien, vous voulez bien nous lire ce poème traduit par vous, poème 2
de Wang Wei.
C'est oui. Quel siècle
Au 8e siècle, le clos au cerf. Je dois dire, pour ne pas décevoir les auditeurs, que je traduis la poésie chinoise mot à mot. Parce que je veux éviter, si vous voulez, l'effet de phrase européenne qui réintroduirait bien toute notre syntaxe et ferait du facsimilé de la poésie européenne. Or, comme on a une langue en Chine essentiellement paratactique, donc isolante, n'est-ce pas, avec un souci d'économie, parce qu'il s'agit d'un quatrain 5, n'est-ce pas, donc la forme la plus réduite de la poésie chinoise, garder à chaque élément. Disons ça, comme chaque note qu'on entendait sur le chin, n'est-ce pas, toute sa résonance. Montagne vide, n'apercevoir personne, seulement entendre de l'homme voix résonner, retour rayon, pénétrer profondeur forêt, à nouveau briller vers mousse au-dessus. C'est donc le mot à mot, mais voyez que le premier vers nous tourne vers le thème de la solitude. Montagne vide, n'apercevoir personne. On entrerait dans une sorte de thématisme bien connu, bon, romantique si vous voulez, l'homme isolé dans la montagne. Mais le second vers déjà fait retrait par rapport à cela, seulement entendre de l'homme voix résonner. Donc de l'homme voix résonner, on est en fait en bordure, en transition là encore entre solitude et puis au contraire partage du monde habité. Et puis retour ayant, vous voyez cette sorte justement, c'est réfléchi dans le poème lui-même, le fait qu'il y a reflet, donc... et enfoncement dans la forêt, mais en même temps qu'on entre dans la forêt, il y a ce rayon qui vient se refléter, donc de nouveau quelque chose qui vient à nous et qui, très discrètement, n'est-ce pas, se reflète sur le vert de la mousse, n'est-ce pas, vert, c'est-à-dire la couleur n'est pas ching, n'est-ce pas, c'est pas vert, c'est simplement c'est pas pittoresque du tout, n'est-ce pas. Donc voyez cette façon de constituer un monde poétique. Avec un énoncé qui soit le plus réduit possible, quatre vers, un aménagement de transition multiple, n'est-ce pas, pour évoquer une sorte de... Alors, le mot recueillement chez nous
est connoté de spiritualité, donc à prendre avec force, prudence, mais disons quelque chose qui est un retrait, mais qui n'est pas un retrait ascétique, qui n'est pas sauvage, n'est-ce pas, qui est simplement une façon de, eh bien, comme quand on joue du chin, n'est-ce pas, se séparer un peu, se retirer un peu de la, disons, du monde et de son vacarme, pour se rendre présent à quelque chose qui est, eh bien, ce qui vient dans ce qu'appelle nous la nature, que les Chinois ont appelé de noms très divers, n'est-ce pas, qui est, disons, dans ce rapport entre l'homme et le ciel, mais ciel au sens chinois, c'est-à-dire le procès des choses, et non pas un ciel de transcendance.
Comment vos travaux sont-ils perçus en Chine ?
Oui, double question, en France, en Europe et en Chine. Alors, en Chine, si vous voulez, il y a eu une certaine difficulté dans mon travail traduit.
Il y a eu des nombreux colloques aussi.
Il y a eu, oui, colloques
consacrés.
À Taipei, il y a quelques années, à Pékin tout récemment, à l'Université de Pékin, sur mon travail. Il y a de l'intérêt. Il y a eu critique aussi. Critique parce que... et puis parfois peut-être de mauvaises raisons. La critique qu'on m'a faite souvent, c'est que je m'intéresserais à la pensée chinoise, à la culture chinoise en général, non pas vraiment pour elle-même, mais aussi pour un retour sur la philosophie. Et on m'a souvent dit, mais quand on s'intéresse à la culture, une culture extérieure, c'est pour lui emprunter. Qu'est-ce que vous voulez emprunter à la Chine ? Alors, ce n'est pas vraiment mon souci. Mon souci, c'est effectivement d'introduire une réflexivité entre pensée chinoise et pensée européenne, plus que d'aller chercher une vérité que je n'aurais pas trouvée en Occident. Parce que justement, ce qui m'intéresse, c'est comment les questions européennes se trouvent déplacées ou remises en travail, disons, par l'intervention de cette autre pensée. Mais ce n'est pas pour aller chercher en Chine une révélation que je n'aurais pas eue en Europe. Donc ça, c'est une chose qui a plutôt déçu. Je me méfie aussi de l'argument souvent utilisé pour introduire mon travail, qui est justement détour-retour. On me dit en Chine, ben on va faire pareil. Détour par l'Europe et retour chez nous.
Donc il y a des François Julien...
Dis-moi, en tout cas, c'est une question. Je ne crois pas qu'il y en ait aujourd'hui, parce qu'ils me le disent. En fait, moi, je m'en tiens à ce qu'on me dit. Mais disons, de Chinois qui fait l'apprentissage du grec pour relire le chinois classique, je n'en connais pas en Chine. Ou plutôt, on me dit qu'il n'y en a pas, même si je pense que cela peut venir maintenant. Mais je pense qu'il y a... ce n'est pas simultané, tout cela. Et les rapports d'histoire sont là. Mais, disons, je l'ai dit à l'instant, n'est-ce pas, le retour, ce n'est pas rentrer chez soi, ce n'est pas avoir voyagé pour retrouver ses évidences de départ.
Ce n'est pas Ulysse qui revient à Ithac.
Non, surtout pas dans la lecture de Plotin, retour au père, n'est-ce pas, retour de l'âme. Bon, non, ce n'est pas ça. Alors, je crois que les choses... progressivement, c'est normal d'ailleurs qu'il y ait du quiproquo, que, je veux dire, s'il y a travail, il y a forcément ce cheminement qui peut être lent, qui est de que les choses se reconfigurent, elles sont à comprendre, et si vous opérez, forcément vous surprenez, c'est logique. Mais en tout cas, je crois que ce moment-là est venu, et que l'intérêt maintenant est là, puisque notamment l'Université de Pékin va rééditer tout mon travail en chinois, et qu'il y a, disons, l'idée que finalement... ma démarche, qui est d'essayer de relancer la philosophie par ce biais d'une extériorité choisie, eh bien, ne faudrait-il pas faire un peu de même, et puis du côté chinois, et puis essayer justement de dépasser cet état actuel de la pensée en Chine, qui est que soit il y a des départements de philosophie européenne, soit des départements de pensée chinoise, mais peu de choses qui travaillent entre les deux.
François Julien, il nous reste très peu de temps. Est-ce que vos analyses qu'on a évoqué, comme on a pu le faire dans si peu de temps, pour un travail si immense. Est-ce que vos analyses s'appliquent à la Chine d'aujourd'hui ? Est-ce que vous avez expérimenté ces analyses sur la réalité chinoise d'aujourd'hui ?
S'appliquer serait peut-être un terme forcé, mais je crois qu'elles éclairent, pour une part, la réalité chinoise contemporaine, et je pense aussi que c'est ça qui fait question, qu'on ne peut peut-être pas éclairer la réalité chinoise contemporaine, y compris politique, uniquement à partir des catégories occidentales. C'est ça qui me paraît important, si vous voulez. Donc effectivement, certaines notions que j'ai élaborées dans mon travail théorique, comme potentiel de situation en stratégie, n'est-ce pas, comme transformation silencieuse, comme régulation, sont des notions qui, je crois, peuvent éclairer eh bien, ce que font les dirigeants en Chine aujourd'hui et plus largement la mutation chinoise aujourd'hui. Comparer par exemple la Chine des 40 dernières années à l'URSS devenant Russie, vous voyez bien que ce qui fait la caractéristique de l'histoire chinoise récente, c'est qu'elle s'est transformée progressivement, sans rupture violente. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas eu de violence dans l'histoire, mais je veux dire sans rupture violente, dans une sorte de transition progressive, et que, me semble-t-il, par exemple, les dirigeants chinois d'aujourd'hui, que font-ils si ce n'est essayer de réguler, c'est-à-dire essayer de venir au secours de toutes les dérégulations sociales, économiques, qui peuvent menacer. Donc je pense qu'effectivement, il y a un éclairage qui peut venir de catégories élaborées à partir de la pensée chinoise classique pour éclairer. Ce n'est pas utiliser le passé pour lire le présent, ce n'est pas si simple, n'est-ce pas ? Mais disons qu'ils peuvent intervenir, et la preuve, c'est que nombre de chefs d'entreprise, travaillant en Chine, évoquent mon travail, s'en servent, notamment sur l'efficacité, la stratégie, ou dans les stratégies de négociation, donc en rapport à ce qui serait, nous appelons nous, la rhétorique, n'est-ce pas, dans leur pratique. Donc je suis très intéressé par cela, parce que je vois nombre de personnes qui sont, elles, dans leur, management d'affaires, parfois même quand ils sont un peu coincés dans leur situation de négociation, ou c'est le marché chinois n'est pas très facile tous les jours, évoquer mon travail pour justement trouver une sorte de distance théorique qui permette en même temps de rééclairer peut-être autrement ou sans passer nécessairement par nos attendus à nous, n'est-ce pas, la réalité.
François-Julien, merci d'avoir été avec nous ce soir. Je voudrais rappeler pour nos auditeurs le titre de deux ouvrages parmi les tout derniers parus, « La pensée chinoise dans le miroir de la philosophie » et « Chemin faisant connaître la Chine, relancer la philosophie, réplique à point de suspension ». Les auditeurs sauront à qui s'adresse cette réponse, ou plutôt cette réplique. Et puis, à ces deux titres, je voudrais ajouter un troisième, un livre qui vous est consacré, « Oser construire » pour François-Julien. C'est un livre, un ouvrage collectif. On retrouve Françoise Gaillard, Jean-Marie Schaeffer, Paul Ricoeur, Bruno Latour, et puis des Chinois dont j'ose à peine prononcer les noms, mais disons Lin Qingming.
Lin Qingming, oui. Et puis, professeur de l'Université de Pékin, Dossier Adjen, n'oublions pas Alain Badiou.
Oui, absolument. Donc, « Oser construire » pour François-Julien, c'est aux éditions Les Empêcheurs de penser à Aron, et « La pensée chinoise et chemin faisant », c'est aux éditions du Seuil. Merci, François-Julien.
Merci, Francesca.
C'était Affinité élective, une émission de Francesca Isidori, à la technique Benjamin Vignal, réalisation Brigitte Aléo. Une émission que vous pouvez écouter ou réécouter sur le site franceculture.com. Merci à tous.